Bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'un nouveau livre. Il s'agit du dernier livre publié par Clara Dupont-Monod qui s'appelle S'adapter. Clara Dupont-Monod, qui est née en 1973 à Paris, c'est une femme de lettres, écrivaine, éditrice, journaliste aussi. Elle est connue surtout pour ses romans historiques, La folie du roi Marc. Elle a écrit deux livres sur Aliénor d'Aquitaine, enfin disons un livre en deux volets. Le roi disait que j'étais diable en 2014, La révolte en 2019. Ou alors elle a écrit sur des personnages marginaux, Histoire d'une prostituée en 2003. L'histoire d'un homme obèse dans Nestor en Les Armes en 2011. Et aujourd'hui, l'histoire d'un enfant handicapé dans son nouveau roman qui s'appelle donc S'adapter, paru chez Stock en 2021. C'est un livre qui a été très bien accueilli par la critique puisqu'il vient de remporter le prix Fémina et le Goncourt des lycéens. C'est un livre en grande partie autobiographique. Sa famille a accueilli, alors qu'elle était âgée de 10 ans, un enfant qu'elle dit inadapté. Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé, inachevé également. Tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel. Une main sert à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse, et pourtant volonté du peintre. Au départ, le problème n'était pas visible. Pour fêter sa naissance, la famille, qui vit dans un village dans la montagne des Cévennes, la famille a reçu chez elle beaucoup de voisins. Il y a des relations très, très particulières entre les familles qui vivent dans ces villages. La mère proposait du vin de châtaigne que la petite assemblée buvait, extatique, dans l'ombre de la cour. On parlait doux pour ne pas brusquer l'enfant si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur d'oranger. Il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Un bébé de la région qui lui appartenait. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé de vent. L'enfant était accepté, semblable aux autres. Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs. Tout était dans l'ordre. Mais un jour, on se rend compte que l'enfant est différent. Un jour, alors qu'il se reposait dans son transat, sa mère s'agenouilla. Elle tenait une orange. Doucement, elle passa le fruit devant lui. Les grands yeux noirs n'accrochaient rien. Il regardait autre chose. Personne n'aurait su dire quoi. Elle passa encore l'orange plusieurs fois. Elle tenait la preuve que l'enfant voyait mal ou pas du tout. On ne saura rien des courants qui, à cet instant, traversent le cœur d'une mère. On va donc apprendre que l'enfant ne parlera jamais, il ne voit pas, il bouge très peu, sa tête tombe comme celle d'un nouveau-né, il faut la lui tenir par la nuque, il ne communique pas. Ce que l'on apprend aussi tout de suite après ce passage, c'est que ce sont les pierres qui sont les narrateurs de l'histoire. Ce sont elles qui parlent et qui racontent. ce qui rapproche un petit peu le récit du conte. Nous, les pierres rousses de la cour qui faisons ce récit, nous nous sommes attachés aux enfants. C'est eux que nous souhaitons raconter. Enchâssés dans le mur, nous surplombons leur vie. Depuis des millénaires, nous sommes les témoins. Les enfants sont toujours les oubliés d'une histoire. On les rentre comme des petites brebis. On les écarte plus qu'on ne les protège. Or, les enfants sont les seuls à prendre les pierres pour des jouets. Ils nous nomment, nous bariolent, nous couvrent de dessins et d'écritures. Ils nous peignent, nous collent des yeux, une bouche, des cheveux d'herbe, nous empilent en maison, nous lancent pour faire un ricochet, nous alignent en limite de gol ou en rail de train. Les adultes nous utilisent, les enfants nous détournent. C'est pourquoi nous leur sommes profondément attachés. C'est une question de gratitude. Nous leur devons ce récit. Chaque adulte devrait se souvenir qu'il est redevable envers l'enfant qu'il fut. C'est donc eux que nous regardions lorsque le père les convoqua dans la cour. Le père les convoqua dans la cour. Qui il convoque dans la cour? Eh bien, deux enfants qui sont nés donc avant ce troisième inadapté, et le père va leur apprendre la vérité sur leur petit frère. Et le livre va se concentrer sur trois personnages, donc le frère aîné de l'enfant, la sœur cadette, et un petit dernier qui naîtra après la mort de l'enfant. Trois enfants, donc, qui, par ordre de naissance, vont vivre avec leur frère handicapé. Comment vont-ils se comporter? C'est ce que le livre va nous dire, bien sûr. Les personnages n'ont pas de nom. On parle de l'aîné, on parle de la cadette, du dernier. Les parents non plus n'ont pas de nom, c'est le père et la mère. Alors l'aîné, on commence par l'aîné. Un enfant de 9 ans quand son frère naît. C'est un enfant plein d'assurance, un peut-être brûlé, qui aime vagabonder dans la forêt, qui marche sur les traces des sangliers. Un jour de Noël, il se passe quelque chose. Ce soir de Noël signa quelque chose d'irréversible. Durant les premiers mois, l'aîné s'attacha profondément. Avant, il y avait la vie, les autres. Maintenant, il y avait son frère. Leur chambre était côte à côte. Chaque matin, l'aîné s'éveillait avant la maisonnée, posait un pied à terre, frémissait au contact des tomettes. Il poussait la porte, se dirigeait vers le lit qui déployait ses volutes de fer blanche, dans lequel lui et sa sœur avaient dormi aussi, avant de grandir et de demander un couchage adapté. L'enfant, lui, ne réclamerait rien. Il garderait donc ce lit. L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table allongée. Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, il se penchait sur le matelas. Il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi dans ce contact immobile, peau contre peau. Il savourait le rebondi crémeux de cette joue et qu'elle soit sans défense, offerte à l'appel d'une caresse, peut-être même offerte rien que pour lui, l'aîné. Le souffle de l'enfant montait de façon régulière. Leurs yeux ne regardaient pas dans la même direction, l'aîné le savait bien. Lui regardait les torsades du lit et derrière la fenêtre qui donnait sur la rivière. L'enfant contemplait un ailleurs, calé sur un rythme que personne ne déchiffrait. Cela convenait à l'aîné. Il serrait ses yeux. Il lui raconterait le lit et la fenêtre, l'écume blanche du torrent, la montagne par-delà la cour, son sol d'ardoise bleu nuit, la porte en bois, le rempart du vieux mur, nous les pierres et nos reflets cuivrés, les fleurs jaillissant des peaux ventrues avec deux petites hanches comme des oreilles. Auprès de l'enfant, il se découvrait patient. Il aime aussi l'emmener se promener dans la montagne. Au beau jour, lorsque la montagne semble s'ébrouer à la faveur des premiers rayons, l'aîné se dirige vers l'arrière de la maison. Le terrain monte, à rebours de la rivière qui multiplie les cascades. Il avance avec précaution, les bras chargés de ce grand enfant dont la tête d'Odeline. Sur sa hanche rebondit un sac avec une bouteille d'eau, un livre et un appareil photo. Il repère l'endroit où le terrain devient plat. Les pierres forment une petite plage. Il dépose le corps avec délicatesse, la main contre sa nuque. Il cale sa taille, déplace un peu son menton pour qu'il reste à l'ombre d'un immense sapin. L'enfant soupire d'aise. L'aîné frotte les aiguilles qui libèrent un parfum de citronnelle et les lui passe sous le nez. Peu à peu, l'enfant reconnut sa voix. Désormais, il souriait, babillait, pleurait, s'exprimait en nourrisson, tandis que son corps grandissait. Comme il était allongé et qu'il ne mâchait pas, son palais se creusa. Son visage de fête devint plus ovale, agrandissant encore ses yeux. L'aîné restait de longs moments à tenter de suivre ses billes noires qui semblaient danser lentement. Jamais il ne pensa aux autres enfants qui, à cet âge, auraient effectué d'immenses progrès. Il ne le comparait pas. Moins par réflexe de protection qu'en vertu d'un bonheur plein, complet, si original que la norme lui paraissait fade. Par conséquent, il s'en désintéressait. On posait l'enfant sur le canapé, la tête calée sur un coussin. Cela suffisait à le rendre heureux. Il écoutait. À son contact, l'aîné a pris le temps creux, l'immobile plénitude des heures. Il se coula en lui, comme lui, pour accéder à une exceptionnelle sensibilité. Froissement au loin, rafraîchissement de l'air, murmure du peuplier dont les petites feuilles retournées par le vent brillent comme des paillettes, épaisseur d'un instant chargé d'angoisse ou rempli de joie. C'était un langage des sens, de l'infime, une science du silence, quelque chose qu'on n'enseignait nulle part ailleurs. À enfant hors norme, savoir hors norme, pensait l'aîné. Cet être n'apprendrait jamais rien, et de fait, c'est lui qui apprenait aux autres. Voilà les relations entre l'aîné et l'enfant. L'enfant, c'est le mot qu'emploie Clara pour parler donc de cet enfant inadapté. Il n'a pas de nom, lui non plus. Et la cadette? La cadette a des relations beaucoup plus difficiles avec cet enfant. Dès sa naissance, elle lui en a voulu. Très précisément, au moment où sa mère avait passé une orange devant ses yeux et conclut qu'il ne voyait pas. La fenêtre de sa chambre donnant sur la cour, elle avait vu la tache vive du fruit, sa mère s'accroupir, entendu son filet de voix tendre et chantant, puis plus rien. Elle se souvenait du crissement rageur des cigales, la dégringolade du torrent, le rire pouffé des arbres secoués de vent, et pourtant de cette musique d'été ne subsistait que la tête baissée de sa mère, une orange dans la main. Elle avait compris que cet instant-là était celui de la fracture. C'était fini. Son père avait beau faire l'optimiste, promettre qu'à l'école, ils seraient les seuls à savoir jouer aux cartes en braille. Elle n'était pas dupe. Elle voyait bien le voile dans le regard de son père et surtout son sourire, un sourire de bouche uniquement, tandis que ses yeux restaient sans expression, plantés vers le lointain. Mais son frère aîné avait marché dans ce grand mensonge, avait négocié d'être le premier à apporter un jeu de tarot en braille à l'école, lui avait promis des parties, rien qu'elle et lui. Alors la cadette avait opiné. Et maintenant, l'enfant régnait. Il aspirait toutes les forces, celles de ses parents et de son frère aîné. Les premiers affrontés, le second fusionné. À elle, il ne restait rien, aucune énergie pour la porter. Il se passe un petit quelque chose dans la cour. Les pierres ont vu. Un jour, nous l'avons vu traverser la cour. L'enfant était posé sur ses grands coussins rêveurs. L'air était doux. C'était un mercredi de septembre. Or, un mercredi, nous le savions, cela aurait dû être rempli d'amis venus faire les devoirs, qui auraient ensuite goûté sous nos yeux, qui auraient peut-être même gravé leurs initiales sur nous, comme le font les enfants d'ici. Mais ce jour, pour la cadette, signifiait la solitude. Elle passa donc, contourna les coussins, se dirigea vers la vieille porte en bois. Soudain, elle fit demi-tour, revint vers l'enfant et lança son pied dans les coussins. Ils se décalèrent à peine, deux énormes coussins de jardin, presque des édredons de poids imposants. L'enfant ne scia pas, mais la cadette avait bien donné un coup. Elle jeta un regard craintif vers la maison et partit en courant. Nous ne la jugeâmes pas. Qui étions-nous? En revanche, nous reconnûmes cette vieille logique absurde, propre aux humains et aux animaux, à laquelle heureusement nous échappons. La fragilité engendre la brutalité, comme si le vivant souhaitait punir ce qui ne l'est pas assez. En la cadette s'implanta la colère. L'enfant l'isolait, il traçait une frontière invisible entre sa famille et les autres. Sans cesse, elle se heurtait à un mystère. Par quel miracle un être diminué pouvait-il faire tant de dégâts? L'enfant détruisait sans bruit. Il affichait une souveraine indifférence. Elle découvrait que l'innocence peut être cruelle. Elle comparait l'enfant à une canicule qui patiemment darde les sols et les assèche, ravage dans une fureur statique. Les lois élémentaires ne s'excusaient jamais. Elles agissaient comme bon leur semblait, et à la charge des autres d'accepter le saccage. Si la cadette résumait, l'enfant avait pris la joie de ses parents, transformé son enfance et confisqué son frère aîné. Elle fait pourtant des efforts quelquefois. Un jour, une fois seulement, elle l'avait porté. Elle s'était approchée du transat dans le salon. Elle avait rassemblé son courage, plaqué ses mains sous les aisselles de l'enfant, l'avait soulevé. Mais elle avait oublié sa nuque sans armature, la tête partie en arrière, balancée au bout du cou. Effrayée, elle l'avait lâché. Il était retombé. Sa tête avait rebondi contre le tissu du transat pour rouler vers le buste. Le haut de son corps avait basculé sur le côté avant de s'immobiliser. L'enfant pleura d'inconfort. Ce fut l'unique colère de son frère aîné, furieux de le trouver ainsi là, en pantin désarticulé, les mollets dans le vide, le front penché vers l'avant. Pourtant, il n'accabla pas sa sœur. Il tonna contre l'indifférence. Comment était-il possible que personne ne songe à le remettre droit? Parce qu'il était inadapté, il faudrait le laisser de traviole avec le cou vrillé? Ses parents le calmèrent avec douceur. Ils comprenaient que l'aîné se fasse autant de soucis. Mais tout allait bien, l'enfant ne gémissait plus. Et d'ailleurs, ils avaient acheté un petit bas de jogging. Est-ce qu'on ne le lui mettrait pas maintenant ? Eux non plus n'accablèrent pas la cadette. La colère la maintenait droite. Elle était une raideur précieuse. Elle était la force des gens debout. Les allongés n'y avaient pas droit. La colère lui permettait des révoltes muettes, des poings serrés dans ses poches, des coups enchaînés dans son oreiller avant de dormir, en un rituel hargneux et consolant. Lorsque le vent devenait tigre fou, que la montagne frissonnait d'une joie mauvaise à l'approche de l'orage, elle se sentait en paix. Elle levait le menton vers le ciel anthracite, humait la tension qui parcourait les herbes. Il lui semblait que la rivière grondait de joie. La cadette attendait le tonnerre et la pluie, car enfin, elle se sentait comprise. La cadette va s'éloigner de plus en plus de la famille et elle va trouver du réconfort auprès de sa grand-mère, une vieille dame très gentille qui la comprend. Mais un jour, c'est une vieille dame, un jour elle va mourir elle aussi. Ce fut pour la cadette sa fin du monde. Un effondrement peut parfois prendre la forme inverse de ce qu'il recouvre. Le désespoir mu en dureté, ce fut le cas. L'appel cogneur, l'impulsion, le bouillonnement de colère, tous ces courants qui tambourinaient à sa porte disparurent instantanément, cédant la place à un désert froid. Son cœur se couvrit d'une pellicule de gel. Cette intransigeance lui vint d'instinct. La cadette devint bloc de pierre. Son cœur avait été arraché. Elle n'en avait plus. Pour elle, c'était clos. Je vous laisse découvrir comment la cadette va se transformer quand elle comprend que sa famille est en péril après la disparition de l'enfant. Cet enfant qui ne devait vivre que jusqu'à l'âge de 3-4 ans va en fait atteindre vers les 8 ans, je crois, 8-9 ans. À un moment, il va partir dans une maison que dirigent des bonnes sœurs, où il sera heureux, on ne peut pas dire heureux, bien sûr, mais où il sera bien. Quant au troisième enfant qui naîtra après la mort de l'enfant inadapté, là aussi je vous laisse découvrir quel rôle il va jouer dans la famille, un très beau rôle aussi. Il y a aussi les parents, bien sûr. Il y a sur eux quelques passages qui montrent leur détresse, mais aussi leur amour. Je vous lis juste un passage où il n'y a pas longtemps qu'ils ont appris que l'enfant serait inadapté. Chacun composa avec sa réserve de courage. Les parents moururent un peu. Quelque part dans le tréfonds de leur cœur d'adulte, une lueur s'éteignit. Ils s'asseyaient sur le pont au-dessus de la rivière, les mains enlacées, à la fois seuls et ensemble. Leurs jambes pendaient au-dessus du vide. Ils s'enveloppaient des bruits de la nuit, comme on s'arroule dans une cape pour avoir chaud ou disparaître. Ils avaient peur. Ils se demandaient pourquoi nous, et aussi pourquoi lui, notre petit. Et bien sûr, comment va-t-on faire ? La montagne manifestait sa présence, murmure des cascades, du vent, vol des libellules. Je ne sais pas si vous avez remarqué que très souvent Clara introduit des descriptions de la nature, parce que la nature, justement, joue vraiment un grand rôle dans ce livre-là. C'est une nature belle, mais violente et intransigeante. Je voulais vous lire, pour terminer, justement, un autre passage sur la nature. C'est le petit dernier, donc, qui découvre la montagne. Vous vous rappelez qu'on est dans les Cévennes, très haut dans la montagne. Il est dans la montagne avec son père. Il plante des bambous. Autour d'eux, veillait la montagne. Elle se manifestait par mille bruits. Elle couinait, grinçait, éclatait de rage ou de rire, murmurait, tonnait, ronronnait, susurrait. Et sans doute l'enfant absent qui avait loui avait pu percevoir cela. Sans doute avait-il admis que la montagne est sorcière ou princesse médiévale, ogre doux, dieu antique ou bête méchante. Le dernier sentait la montagne auprès de lui, allié. Il savait que les travaux des hommes étaient réduits à néant, que les traversiers s'effondraient, que les arbres poussaient sur la roche et détruisaient les plantations. Il en savait l'intransigeance. Mais il savait aussi qu'en avril, les ficaires parsèment l'herbe de leurs gouttelettes jaunes, qu'en juillet, les geais viennent picorer les figues, et qu'en octobre, on se plie vers les premières châtaignes au sol. Il soulevait toujours les pierres, conscient qu'en dessous la vie grouillait. Il avait compris cela de nous, que notre ventre sert d'abri. Il allait même jusqu'à creuser un trou dans la terre, 15 centimètres minimum, qu'il recouvrait d'une pierre plate afin que les lézards puissent pondre en toute tranquillité. Il avait une préférence pour les gloméris, car ils se mettent en boule lorsqu'ils ont peur. Il adorait ce réflexe, il le trouvait simplement génial. S'enrouler sur soi en cas de frayeur. Au fond, pensait-il, les humains imitent les gloméris. Lorsqu'il en trouvait un, petite boule ardoise au creux de sa main, il n'osait plus respirer. Il le reposait doucement dans la terre humide et partait sur la pointe des pieds. Le dernier respectait infiniment la nature. Les pierres portaient l'empreinte des bêtes, le ciel était un vaste abri pour les oiseaux, et la rivière surtout était habitée de crapauds, de couleuvres, d'araignées d'eau et d'écrevisses. Il ne s'était jamais senti seul. Il comprenait que l'enfant ait vécu plus longtemps qu'il n'aurait dû ici pour profiter de cette compagnie. Cela lui semblait logique. S'il avait pu connaître l'enfant, il aurait eu cela en commun avec lui, l'acceptation entière de la montagne. À un moment, Clara Dupont-Mono déclare « C'est une nature qui demande une humilité de l'homme et pas l'inverse. » Elle aime d'ailleurs, très souvent dans le livre, comparer l'enfant à la montagne. « Ces êtres-là ne jugent pas, nous dit-elle. Ils sont capables de poésie. Il n'y a pas le filtre de la malveillance. L'enfant est exactement comme la montagne. La montagne est, l'enfant est, une existence pure. Et ça suffit. » Voilà un très beau livre sur l'enfance handicapée, inadaptée. Le mot « inadapté » pose le problème de la norme en société. Qu'est-ce que c'est qu'être normal ? N'est-ce pas à nous à nous adapter à l'inadapté ? N'est-ce pas à nous à comprendre le monde comme l'enfant le comprend ? À se mettre à sa hauteur, comme son petit frère qui se met près de lui, près de son oreille, parce que c'est un enfant qui entend, il ne voit pas mais il entend. C'est ce que va faire donc sa famille, à se mettre à sa hauteur, ses parents, son grand frère, sa petite sœur, elle aura un petit peu plus de mal. Mais la société, non, la société ne va pas s'adapter à l'enfant. C'est un livre qui n'a rien de larmoyant, qui nous dit les faits tels qu'ils sont, les sentiments éprouvés par les personnages, ce qu'est leur vie, le désarroi des parents, mais aussi leur force. L'amour fusionnel du frère aîné, la colère et le déni de la sœur cadette. Pas de leçon de morale, pas de bons sentiments poisseux qui donnent bonne conscience. Voilà, c'était donc « S'adapter » de Clara Dupont-Mono, publié chez Stock en 2021. Merci pour votre écoute. À bientôt.